La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Au menu de notre club cet après-midi, deux nouvelles doctorantes pour la finale nationale de ma thèse en 180 secondes, accompagnées du parrain de cette édition 2019. Nous irons voir l'exposition Le Merveilleux Scientifique qui est à la BNF François Mitterrand à Paris jusqu'en août. Et puis on parlera virus et moustiques avec le site The Conversation France. Et je vous présente bien sûr mes invités dans un instant. Héloïse Rambert, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui à la Une de la Science, on va se pencher sur la composition de poussière d'astéroïdes.
Oui Mathieu, on va parler des minuscules échantillons de l'astéroïde Itokawa qui ont été ramenés sur Terre par la sonde Hayabusa. Parce que figurez-vous Mathieu qu'ils contiennent de l'eau contre toute attente.
Claire Destacan réalise ce club aujourd'hui qui a été préparé par Sophie Vaux et Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et il y a du monde aujourd'hui autour du micro. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Et bienvenue. On va commencer ce club avec donc deux nouvelles candidates, en l'occurrence de la finale nationale de ma thèse en 180 secondes, accompagnées de leurs parrains, Florine Ekal, Eslem Benarous et Bertrand Perrier. Bonjour à vous trois. Bienvenue.
Bonjour.
Bertrand Perrier, vous êtes avocat, grand maître de l'art oratoire et donc le parrain de cette édition 2019 de ma thèse en 180 secondes. Vous avez distillé quelques conseils aux candidats?
Oui, parce qu'ils étaient très stressés, parce qu'il y aura eu une demi-finale il y a quelques semaines. Et donc, les 16 qui se présenteront à Grenoble le 13 juin prochain sont déjà des survivants.
Ouais. Et quels conseils vous leur avez donné alors à ces survivants qui sont avec nous au micro?
Oh, bah, c'est des survivantes d'ailleurs, et je me réjouis que ce soit des filles. C'est vrai que souvent, ce sont des scientifiques très pointus dans leur domaine, qui sont des domaines extrêmement spécialisés. Donc, il faut d'abord, moi je leur ai demandé de raconter des histoires, de nous dire en quoi ce sujet avait des implications, ce qu'ils pouvaient raconter de l'être humain, et puis aussi de nous dire pourquoi eux avaient choisi ce sujet, parce que choisir un sujet, c'est aussi parler de soi.
Alors, Eslem Benarous, justement, vous qui êtes doctorante en troisième année au laboratoire de géochronologie du Muséum National d'Histoire Naturelle, quel est votre sujet de thèse alors cette année?
Alors, mon sujet de thèse porte sur la chronologie des Homo sapiens d'Afrique du Nord. Et mon travail en tant que géochronologue, c'est d'établir des chronologies dans le temps pour essayer de comprendre quand se termine le Middle Stone Age, qui est une période préhistorique très importante en Afrique du Nord, puisqu'elle est associée à l'émergence de notre espèce à
Absolument.
Homo sapiens.
Et c'était il y a très longtemps, il y a 300 000 ans, pour les tout premiers d'ailleurs, quasiment, Homo sapiens. Florine Ekal, vous êtes doctorante en deuxième année à l'Université de Poitiers. Quel est, Florine, votre sujet de thèse?
Alors moi je travaille sur le stress moléculaire du microbiote et en fait je cherche à recréer un microbiote intestinal artificiel de manière à tester en fait l'effet des futurs médicaments sur notre microbiote intestinal pour contrer tous les effets secondaires qu'on peut rencontrer de nos jours.
Ouais, un vrai sujet en vogue aussi en ce moment.
Exactement.
Champ de recherche très très important, on va en parler avec vous dans quelques minutes. Sophie Becherel, votre invitée cette semaine, est également doctorante.
Oui, Fleur Hopkins a même participé à ce concours ma thèse en 180 secondes. Voyez, on est
il y a deux ans en l'occurrence, je crois.
Donc coup de cœur pour une exposition dont elle est la commissaire, une exposition qui, sans vous montrer un seul objet, vous donne envie de foncer chez le libraire et de lui demander des titres et des auteurs dont vous n'avez jamais entendu parler. Ça se passe donc, vous l'avez dit, à la Bibliothèque Nationale de France, ça s'appelle Le Merveilleux Scientifique. Éclairons tout de suite les auditeurs. Fleur Hopkins, qu'est-ce que c'est que Le Merveilleux Scientifique?
Le Merveilleux Scientifique, c'est un genre littéraire, comme vous l'avez bien dit, méconnu, qui se déploie entre 1900 et 1930, et dont la figure tutélaire est Maurice Renard. Et pour le faire de manière très courte, il s'agit de déployer dans le présent un récit crédible, dont on va altérer une loi physique, chimique, biologique, pour nous transporter dans un monde fantasmagorique et merveilleux.
Est-ce que c'est ce qui a précédé la science-fiction? On pourrait presque dire les choses comme ça
ou
c'est
on, un peu... pourrait. On pourrait simplifier.
Bon.
On pourrait.
Alors,
tout
on va préciser
fait.
Les choses avec vous dans un instant. Et puis Cécile Beck, vous êtes avec nous également. Vétérinaire et virologiste, et vous signez pour le site The Conversation France un article sur deux virus qui touchent les oiseaux dans notre pays. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'en parler à ce moment-là de l'année alors?
Parce que ces deux virus ont circulé de manière forte en 2018. Pour le virus qui s'appelle Ouzoutou, il a circulé sur toute la France. Et pour le virus West Nile, ou dit virus fièvre du Nil occidental, il a circulé dans le sud de la France. Mmh. Et il peut être responsable de pathologies chez l'homme.
Oui, donc ils sont surveillés de très près et on va voir exactement ce qui les caractérise avec vous et en compagnie également d'Aline Richard qui a accueilli donc cet article sur The Conversation France. Allez, on se retrouve dans un instant et bien sûr les auditeurs nous rejoignent avec toutes les questions et les messages sur franceinter.fr. Héloïse, à la une de la science, donc aujourd'hui on parle d'une première, des scientifiques qui ont détecté de l'eau sur des échantillons d'astéroïdes.
Et oui Mathieu, une analyse des échantillons de l'astéroïde Itokawa rapportée sur Terre en 2010 par la sonde Hayabusa montre que cet astéroïde est riche en eau et c'est en effet la première fois que la présence d'eau est mesurée directement à la surface d'un astéroïde. Les résultats de l'étude sont parus dans la revue Science Advances. On en parle tout de suite avec Patrick Michel qui est au téléphone avec nous depuis Nice. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien et directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors dites-nous, ces échantillons d'astéroïdes, ils viennent d'où et comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à nous surtout ?
Alors en fait, ils viennent d'un petit astéroïde qui s'appelle Itokawa, qui fait à peine 320 mètres de diamètre, donc c'est vraiment tout petit, et qui avait été visité par une sonde japonaise, Hayabusa, qui s'était rendue vers lui en 2005 pour faire une démonstration, plusieurs démonstrations technologiques, notamment la capacité de faire de la navigation autonome autour d'un petit corps, de récolter un échantillon et de le ramener sur Terre. Donc ceci a été fait en 2010, sauf que le mécanisme d'échantillon n'a jamais marché. Pour la faire courte, en fait, le petit satellite a tapé sur la surface qui n'était pas prévue. Et en tapant, en fait, bien, il y a quelques poussières qui sont finalement remontées dans le sas qui était prévu pour récolter des échantillons. Et on a découvert avec surprise en 2010 que des échantillons étaient bien là, mais ils sont vraiment tout petits. Alors, beaucoup, beaucoup plus petits qu'un moustique, à peine quelques micromètres de diamètre, donc on les voit même pas à l'œil nu, donc ça a été très difficile de les identifier.
Et pourquoi avoir choisi de ramener des échantillons de Itokawa ? C'est un astéroïde intéressant particulièrement pour vous ?
Alors, a priori, c'était, bon, pour moi, tous les astéroïdes sont intéressants d'abord, mais a priori, c'était pas le plus intéressant. On cherche plutôt à explorer des astéroïdes qui sont ce qu'on appelle primitifs, c'est-à-dire dont la qui n'ont pas chauffé, donc leur composition est fidèle à la composition initiale des poussières qui ont formé nos planètes, et on pense sont plutôt des objets carbonés, qui sont comme cela. Alors que Itokawa était plutôt sur la base de ce qu'on savait depuis le sol terrestre, un astéroïde rocheux, plutôt formé près du Soleil, donc plutôt pauvre en éléments volatiles et éventuellement en eau. Donc il avait été en fait choisi pour faire une démonstration technologique. Donc en gros, on avait pris le moins cher, on était allé là où on pouvait aller le plus vite et le plus facilement.
Donc finalement, on n'attendait pas grand-chose de ces résultats, c'est plutôt une bonne surprise.
Oui, alors bon, on attend toujours plein de choses parce que les astéroïdes, on sait très peu de choses sur eux. En l'occurrence, on a pu faire le lien entre Itokawa et un certain type de météorites, qui sont les météorites les plus communes sur Terre, d'ailleurs, les chondrites ordinaires. Ce qu'on pensait, mais on a pu le vérifier. Mais effectivement, on ne s'attendait pas à trouver de l'eau comme on l'a trouvé là avec cette nouvelle analyse.
Et on avait déjà détecté d'une manière ou d'une autre de l'eau sur d'autres astéroïdes ?
Oui, alors sur la base des observations qu'on fait depuis le sol terrestre, ce qu'on appelle des observations spectrales, c'est-à-dire qu'on regarde dans quelle longueur d'onde la lumière nous est renvoyée depuis la surface des astéroïdes, il y a certaines caractéristiques signatures de l'eau, ce sont pour dire des bandes d'absorption, qui sont vraiment des signatures de l'eau. Alors elles sont très très difficiles à identifier, mais on a donc pu effectivement vérifier que certains astéroïdes contiennent, c'est pas vraiment de l'eau à l'état liquide, ce sont des minéraux hydratés, un peu comme des argiles, donc c'est des astéroïdes qui ont vu l'eau, et donc on savait déjà que le candidat les plus probables pour avoir amené l'eau sur Terre étaient les astéroïdes. Simplement, cette bande de l'eau, comme on l'appelle, eh bien on l'avait détectée plutôt justement sur ces astéroïdes riches en carbone, carbonés, et pas du tout sur les astéroïdes de type Itokawa, qu'on appelle des astéroïdes silicatés de type S.
Donc c'est vraiment une énorme surprise de trouver de l'eau sur cet astéroïde précis.
Oui, parce que dans les chondrites ordinaires, qui sont les météorites qui sont liées à Itokawa, on trouve un peu d'eau. Mais là, on la mesure directement sur un échantillon rapporté. Et directement, on sait vraiment que c'est un astéroïde silicaté. Et donc, ça remet un petit peu en cause, ou en tous les cas, ça complète nos modèles de formation de la Terre et puis d'apport de l'eau sur Terre. On savait déjà que par rapport aux comètes, les astéroïdes étaient les meilleurs candidats pour avoir apporté l'eau sur Terre. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'ils le sont encore plus, parce que l'éventail des types d'astéroïdes qui sont capables d'amener l'eau est plus grand que ce que l'on prévoyait avant.
Alors justement, rappelez-nous un peu cette histoire. Donc, les océans, ceux qu'on voit, qu'on va encore voir cet été, viennent des impacts d'astéroïdes. C'est un peu difficile à concevoir pour nous.
Ben en fait, quand la Terre s'est formée, c'était en fait des morceaux qui s'accumulaient, qui croissaient par collision, jusqu'à aboutir à une planète. Et puis en fait, on sait, d'après toutes les informations qu'on a maintenant et les modèles que l'on construit, qu'à la fin de la formation de la Terre, il y avait encore un grand taux d'impact, le dernier d'ailleurs impact géant a formé la Lune, et ces impacts ont en fait apporté l'eau sur Terre, et on a pu le vérifier parce que on sait à peu près sur la base des météorites qu'on a sur Terre quelle est la fraction d'eau qu'ont les astéroïdes carbonés, sans compter maintenant les astéroïdes silicatés comme Itokawa, et en faisant le bilan de ce qu'ils ont pu apporter par rapport au taux d'impact, on arrive finalement à expliquer la masse des océans. Et en plus, l'eau a une certaine signature, en gros, sa masse, on appelle ça le rapport deutérium sur hydrogène, eh bien cette signature-là, qui est vraiment spécifique, c'est une empreinte, eh bien il est le même sur les astéroïdes, alors que sur les comètes, à part pour une, il est plutôt différent. Donc on a bien un scénario cohérent, l'eau que contient les astéroïdes a la même empreinte que l'eau des océans, et en plus le taux d'impact de ces objets par rapport à celui des comètes, eh bien permet mieux de comprendre la masse que l'on a dans ces océans. Simplement, on ne tenait pas compte du fait qu'on n'a peut-être même pas besoin des objets carbonés, même les objets silicatés peuvent avoir contribué à l'apport de l'eau sur Terre.
Alors rapidement, vous attendez de nouveaux échantillons avec Hayabusa 2. Normalement, un nouvel arrivage va encore vous apporter d'autres informations.
Ah oui, ben là on vit des aventures en ce moment géniales, extraordinaires avec Osiris-Rex et Hayabusa 2, donc une mission japonaise, une mission américaine, qui rendent visite actuellement à deux nouveaux mondes. Cette fois-ci, ce sont des objets carbonés, on les a choisis pour ça, donc des objets très primitifs qui contiennent probablement de la matière organique, qui sont d'ailleurs très très noirs, et ils ont cette fameuse bande de l'eau. Donc en ramenant des échantillons, et Hayabusa 2 a d'ailleurs fait une première récolte réussie, eh bien là on va pouvoir justement vérifier si les propriétés de l'eau, cette empreinte de l'eau sur ces objets-là est la même que celle sur Itokawa, est la même que celle des océans, et ainsi compléter le scénario. Donc c'est vraiment des moments vraiment extraordinaires. Et les échantillons, ces analyses-là montrent que ça vaut le coup d'en rapporter, parce qu'ils sont arrivés en 2010, et ça n'est que maintenant qu'on a pu mesurer qu'il y avait de l'eau dedans, parce qu'on a des nouveaux instruments qui petit à petit permettent d'enrichir nos connaissances. Voilà, j'ai pas mis 180 secondes, mais...
6 minutes 30.
C'est une belle performance.
Mais c'est
même
normal, ça valait le coup aussi. Et on n'a pas fini de vous appeler pour vous demander des renseignements et des nouvelles justement de ces astéroïdes. Merci beaucoup Patrick Michel pour votre intervention. Héloïse Rambert, merci également d'avoir passé toute cette semaine avec nous. La semaine prochaine, c'est Axel Villard qu'on retrouvera au micro de la Une de la Science. Bon week-end à vous.
À vous aussi.
Et dans un instant, le club.
Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche. Je veux pas laisser ce regard bleu. Qui exaspère.
Bleu, cet extrait de son dernier album Kerenan sur France Inter avec dans le club aujourd'hui donc ma thèse en 180 secondes, le merveilleux scientifique et puis des virus et des moustiques avec nos invités. On va commencer justement avec nos deux doctorantes qui sont en compétition pour la finale nationale de MT 180. Ce sera jeudi 13 juin prochain à Grenoble.
C'est parti.
La tête au carré, ma thèse en 180 secondes sur France Inter.
À toi. Voilà, chaque semaine, donc, jusqu'à la finale, nous accueillons, donc, les candidats. Et aujourd'hui, Florine Ekal et Eslem Benarouz. Vous avez donc franchi toutes les étapes. Bravo. Il vous reste maintenant à convaincre, évidemment, le jury et le public de Grenoble. Ce sera le 13 juin prochain, à la Maison de la Culture, d'ailleurs, de Grenoble. Vous avez le sourire. Vous avez l'air tout à fait détendu par rapport à cette échéance. Et on va découvrir vos sujets de thèse dans un instant. Non, Eslem, vous êtes un petit peu inquiète?
Un peu stressée.
C'est vrai. Maintenant, vous avez quand même eu l'occasion, quand même, de présenter la thèse devant déjà du public, hein, dans vos régions. Donc vous êtes un petit peu entraîné. Qu'est-ce que ça va changer selon vous d'ailleurs de partir en finale nationale là ?
Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je ne sais pas. Mais ouais. Il y a toujours ce stress qui est toujours présent, l'appréhension d'être devant un public qu'on ne connaît pas, un jury qu'on ne connaît pas non plus, de faire une prestation éblouissante ou pas.
De vous surpasser.
C'est ça.
Ouais. Alors justement, il y a Patrice qui nous écrit là en ce moment même en direct pour nous dire, est-ce que le discours que vous avez soutenu déjà hein, en 3 minutes sera exactement le même lors de la finale ou est-ce qu'à chaque fois vous changez, vous devez changer ce texte, Florine?
Alors pour ma part, moi j'ai rien changé depuis la finale locale à mon université et je ne changerai rien pour la finale nationale.
Ouais.
J'ai gardé exactement le même texte, je garderai la même diapositive. Ouais. Ça m'a porté chance jusqu'à présent, donc je crois en ma chance et je changerai.
Surtout que sur votre diapositive, il y a des petites crottes. Hein.
Exactement.
Donc ça porte doublement chance quand on parle de microbiote intestinal. Donc ça sera formidable. Et même chose pour vous, Eslem.
Pas du tout.
Si, vous allez changer un petit peu.
J'ai changé quelques phrases, surtout au niveau de l'introduction et de la fin, pour avoir une meilleure accroche et une conclusion beaucoup plus harmonieuse avec le reste de mon discours.
Vous avez senti qu'il fallait le renforcer auprès du public?
Oui, un peu, parce que c'est vrai qu'on a eu des retours et même si effectivement on est sélectionné, on a toujours des retours sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on devrait dire. C'est pas forcément bien compris. Donc je vais modifier quelque chose, quelques aspects du discours.
Bertrand Perrier, parrain de cette nouvelle édition, avocat, spécialiste de l'art oratoire, enseignant à Sciences Po, à HEC. Vous êtes également dans ce programme, ce projet Eloquentia. Hein. C'est un programme de formation et concours d'art oratoire organisé par l'Université Paris 13 en Seine-Saint-Denis. Il faut tenir compte des avis du public ou pas?
Ah oui, toujours. Ouais. Et parce que c'est lui qui est le meilleur juge. Nous, dans les laboratoires, on a quelque chose qu'on estime parfait, mais est-ce que ça passe la rampe? Est-ce que c'est audible? Est-ce que c'est intelligible? Est-ce que c'est intéressant? Ça, c'est seul le public peut vous le dire. Donc, il est très bien au fur et à mesure. Alors, si pour vous, c'était parfait tout de suite, tant mieux. Mais si vous avez senti, en effet, qu'il y avait des petites choses qu'on pouvait ajuster, c'est très bien. C'est d'autant que vous avez 180 secondes, c'est extrêmement bref. Mmh. Donc, il n'y a pas de place pour l'improvisation, il n'y a pas de place pour l'approximation. Tout doit être vraiment léché au quart de poil près et donc vraiment vous avez la nécessité d'être super prêt.
Ouais. Mais vous étiez bien finalement dans votre texte aussi sur le microbiote, Florine Eckhall, et c'est ça le plus important d'ailleurs. Hein.
C'est ça, mon texte est bien calé, j'ai quand même écouté ce que le public m'a dit, ce que le jury m'a dit. La plupart m'ont dit que c'était bien, ils auraient changé peut-être quelques petites choses dans l'introduction. Moi j'ai peur que ça me déstabilise plus qu'autre chose.
Ouais.
Et voilà, j'ai commencé le concours en faisant ce texte-là et je crois que je finirai avec ce texte-là.
Bien. Bertrand Perrier, vous aviez déjà travaillé avec des scientifiques ou pas, ou c'était un peu nouveau là pour vous cette expérience de parrainage?
Alors non, moi j'ai eu 8 en maths au bac, hein, donc vraiment j'avais aucune chance de faire une thèse en sciences. Je trouve ça extraordinaire. En fait, je trouve ça dément sur deux points. D'abord, le côté recherche, c'est-à-dire le côté presque monacal sur des sujets qui en eux-mêmes sont poétiques. Enfin, l'idée du stress du microbiote, enfin, tu sais, je sais même pas ce que ça veut dire, et ça m'ouvre des horizons extraordinaires. Et je trouve ça infiniment poétique. Même les titres, j'ai reçu les titres des thèses des 16 finalistes, je comprends pas un mot sur deux.
Ah, c'est normal,
et ça m'ouvre des océans de connaissances. Donc je trouve ça à la fois formidable de consacrer une partie de sa vie, de sa jeunesse à un sujet comme cela, et dans l'autre aspect, de venir le porter, c'est-à-dire de venir l'apporter au grand public. Vous pourriez rester dans vos laboratoires à faire des thèses qui seraient de recherche pure, et vous avez fait le choix de le porter vers les autres, de le rendre intelligible, de raconter des histoires pour nous dire comment tout cela a un impact dans le monde réel, c'est-à-dire le monde des pauvres mortels comme nous. Et ça, c'est vraiment formidable, ce mouvement à la fois de recherche totalement fondamentale et d'offrir ça au grand public.
Florine Eckhall, justement, quel est l'intitulé exact de votre thèse alors, pour l'entendre hein, au moins une fois?
C'est ça, c'est le stress moléculaire du microbiote. Quand on a commencé, on ne savait pas vraiment sur quoi on allait se lancer. Donc c'est un sujet très court comparé à mes camarades, où ils ont des sujets vraiment beaucoup plus, avec 3 lignes de sujets de thèse.
Ouais.
Nous, c'est beaucoup plus simple. Après, voilà, dans la façon de faire, c'est plus compliqué que juste le petit nom.
Mais... C'est ça. On va d'ailleurs entendre un extrait de votre présentation, puisque vous avez justement remporté le premier prix de la finale régionale, hein, dans votre région, à l'Université confédérale Léonard de Vinci. C'est Poitiers et La Rochelle, c'est ça?
Poitiers-Limoges.
Poitiers-Limoges, voilà. On va écouter donc un extrait de votre prestation sur le microbiote et on en discute juste après.
Bonsoir, je m'appelle Florine Eckhall et au laboratoire, mes collègues m'appellent agent fécal. Et ce soir, je vais vous parler de microbiote intestinal. Ce sont tous les microbes, et notamment bactéries, que l'on possède dans nos intestins. Sans elles, impossible de digérer certains aliments, ou bien de se défendre contre les méchantes bactéries. Mais de temps en temps, c'est la catastrophe. Et un déséquilibre se crée au sein de toutes ces bonnes bactéries. Ce déséquilibre, il peut être dû à différents facteurs. Un aliment contaminé, la béchamel de belle-maman par exemple, ou bien même un médicament. Les recherches que j'effectue durant ma thèse sont de recréer une flore intestinale artificielle au laboratoire.
Voilà, Florine Eckhall, agent fécal, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est d'un goût, franchement.
J'étais prédestinée.
Ah, mais oui, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes engagée d'ailleurs sur cette voie de recherche du microbiote? Ça fait longtemps que vous y intéressez?
Alors moi, j'ai fait des stages sur la communication entre les bactéries, donc ce qu'on appelle le quorum sensing, et le microbiote intestinal, en fait, c'est ça, c'est la communication aussi au sein de notre microbiote, de toutes nos bactéries. Et le sujet de recherche est apparu au laboratoire quand moi je cherchais une thèse. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été prise pour me lancer dans l'aventure de cette thèse.
Alors, le microbiote, les microbiotes d'ailleurs, hein, il faut dire, hein, parce que là, c'est le microbiote intestinal, mais en fait, notre corps possède plusieurs microbiotes.
On a plusieurs microbiotes, oui. Le principal et le plus étudié actuellement, c'est le microbiote intestinal, mais on en a un autre vaste quand même, le microbiote cutané, on a un microbiote pulmonaire, buccal, on en a vraiment partout.
Absolument, et on est en train de découvrir qu'on en a même peut-être un dans le cerveau, paraît-il. Alors ça, c'est vraiment un champ de recherche très très important aujourd'hui. Il y a des équipes dans le monde entier hein, qui travaillent dans ce domaine-là. Et alors, sur précisément le microbiote intestinal, vous, l'idée, c'est de pouvoir en créer un artificiel, c'est ça?
C'est ça. Le but, en fait, de cette recherche, c'est de recréer un microbiote artificiel de façon à tester en fait l'effet des futurs médicaments. Donc je travaille avec une entreprise qui est basée dans la région, Eurofins CEREP. Et en fait on cherche à miniaturiser un microbiote intestinal pour tester en fait l'effet des futurs médicaments, ce qui sont pas encore sortis, pour voir s'il peut pas y avoir un impact, s'ils peuvent pas par exemple éliminer une sorte de bactérie qu'on pourrait posséder et à terme provoquerait des effets secondaires. Donc c'est vraiment ça le but, ou de voir même si nos bactéries elles pourraient pas détruire le médicament par exemple, comme il y a certains médicaments qui sont connus pour être métabolisés par les bactéries du microbiote intestinal. Donc c'est vraiment de recréer de manière artificielle afin de tester l'effet des futurs médicaments ou de tester l'effet des bactéries sur les futurs médicaments.
Sophie Becherel.
Vous reconstituez un microbiote, est-ce que ça veut dire que vous travaillez dans le noir? Parce que notre microbiote, il n'est pas éclairé.
C'est une très bonne question, pas du tout. Je travaille à ce qu'on appelle en anaérobiose, c'est-à-dire sans oxygène.
Donc j'ai avec de la lumière quand même.
Avec de la lumière.
Peut-être que ça change les choses.
J'avoue que je ne me suis pas encore posé la question.
Oh là là, Sophie soulève un point très important, qui peut être un biais dans ce travail, qui sait.
Dans l'incubateur, il fait noir, mais c'est vrai que quand moi je travaille avec de la lumière.
Ouais. Alors, le problème des médicaments, c'est très important justement, parce que effectivement, certains médicaments sont destructeurs aussi du microbiote. Donc le but, c'est d'étudier ça, hein, de pouvoir voir un petit peu les limites de certaines molécules.
Exactement. Le but, c'est vraiment de comprendre. Donc actuellement, on cherche vraiment à comprendre les médicaments qui pourraient avoir un impact sur ce microbiote, sur les bactéries qu'on a choisies. Et à terme, en fait, c'est de pouvoir reconstituer pour tester l'effet, en fait, après des futures molécules qui seront potentiellement mises sur le marché dans quelques années.
Bon, ben vous allez nous expliquer tout ça donc le 13 juin hein, sur la scène donc de Grenoble en l'occurrence, de la Maison de la Culture. Et puis Eslem Benarous, vous êtes évidemment sur un autre sujet, alors totalement différent parce que là on est sur les origines humaines, sur l'archéologie et la datation en particulier. Hein.
Tout à fait, oui.
Ouais. Vous travaillez où exactement en ce moment?
Alors je suis basée à l'IPH qui est l'Institut de Paléontologie Humaine, mais je travaille aussi environ à 25% de mon temps au Musée de l'Homme quand j'ai envie de rédiger au calme ou de préparer des échantillons dans certaines salles qui ont été rénovées en 2015.
Et vous avez remporté donc le prix du jury de la finale MT180 de Sorbonne Université avec donc ce sujet sur la chronologie des peuplements d'Homo sapiens en Afrique du Nord-Ouest. C'est très précis et pour des raisons tout à fait particulières. On va écouter là aussi un extrait de votre prestation.
Un archéologue ressemble plus à Sherlock Holmes qu'à Indiana Jones. C'est un détective qui doit résoudre une enquête dont les faits se sont déroulés il y a des milliers d'années. Mon travail est d'utiliser des méthodes de datation afin de donner un âge précis à des indices archéologiques provenant d'une scène de fouille. Suivez-moi dans mon enquête qui commence au nord du Maroc. Des archéologues y ont découvert des grottes préhistoriques. Les archéologues ont compris que deux peuplements préhistoriques d'Homo sapiens ont habité ces grottes à des moments différents. Quand ce changement a eu lieu? Et parfois, il me faut 6 mois en moyenne pour dater une dent fossile. Et oui, la datation, ça vous donne un temps, mais surtout, ça vous en prend.
Eslem Benarous, voilà ce lieu d'Afrique du Nord, c'est le Maroc hein, qui est extrêmement important justement pour les origines humaines et nos origines en particulier d'Homo sapiens. Hier, on avait au téléphone Jean-Jacques Hublin, hein, justement, qui lui a travaillé sur le site de Jebel Irhoud, où on a retrouvé d'ailleurs le fossile le plus ancien d'Homo sapiens.
C'est ça.
Où se trouve le site qui vous intéresse au Maroc hein?
Alors les sites sur lesquels je travaille se situent dans la région de Rabat, donc au sud de la ville à 4 km, donc sur la côte, où on a une importante concentration de grottes préhistoriques. C'est hallucinant d'un point de vue concentration de vestiges archéologiques à l'échelle de l'Afrique du Nord. C'est le seul exemple que l'on ait dans cette zone. Et puis, on sait qu'on a eu des peuplements qui ont habité ces grottes sur les 120 derniers millénaires.
Ouais. Donc ça, c'est absolument fascinant. Et c'est vraiment le berceau quasiment d'Homo sapiens. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve évidemment d'autres lieux probablement en Afrique. Mais là, les fossiles les plus anciens se trouvent au Maroc. Hein.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc vous, il faut les dater aussi, tout ce qu'on trouve dans ces grottes-là, il faut pouvoir mettre des dates dessus.
Oui, alors effectivement, dans ma thèse, je m'intéresse vraiment à la fin du Middle Stone Age. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la période qui est marquée par l'émergence de notre espèce. Mmh. Et justement, cette période, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle se termine. Et elle est très importante à dater, puisqu'en fait, il y a eu un bouleversement à la fois culturel, climatique, anthropologique, qui est marqué par l'arrivée de d'autres peuplements qui donc appartiennent au Later Stone Age. Et le but, c'est de savoir en fait quand se finit le Middle Stone Age et quand commence le Later Stone Age, pour ces questions justement de bouleversement anthropologique et culturel.
Voilà. C'est très important parce que ça permet de retracer cette histoire plus précisément, évidemment, avec les déplacements de ces populations. Oui. Ah, donc ce que vous expliquez justement dans votre MT180, hein, c'est que vous prenez plusieurs couches, les couches supérieures, les couches inférieures, pour pouvoir dater tout ça. Vous faites une moyenne finalement des...
J'essaie d'appliquer... J'utilise ce qu'on appelle une approche multiméthode. J'essaie d'appliquer le maximum de méthodes de datation afin d'avoir des chronologies robustes ou au moins de pouvoir discuter de ces occupations dans le temps de manière, en tenant compte en fait de tous les éléments qu'on a sur les sites. C'est un travail qui est assez lourd puisque j'applique 3 méthodes, donc j'ai pu en montrer que 2 pour le concours parce que je peux pas. Ouais. C'est un peu frustrant, mais
donc
je peux pas tout expliquer.
Le carbone 14.
Le carbone 14, l'ESR appliqué aux dents d'herbivores que je trouve, ouais, et l'OSL appliqué aux grains de quartz qui sont contenus dans le sédiment. Qui eux-mêmes en fait enrobent les objets archéologiques.
Et tout ça, il faut le raconter en 180 secondes.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est fait, le texte est écrit, hein. Vous allez un petit peu le modifier avec les conseils de Bertrand Perrier pour partir à Grenoble donc le 13 juin pour la finale nationale. Les gestes, la maîtrise du souffle, le regard, la posture, tout ça, c'est très important évidemment.
Et puis les variations de la voix, c'est vraiment très important. Hein. On n'écouterait pas une symphonie qui serait une seule note sur un rythme perpétuellement identique. Donc essayez de nous raconter des histoires, d'être complexe, d'être simple, et de varier l'intensité, le débit et de nous emmener vraiment avec vous dans vos laboratoires.
Ouais, il faut accrocher aussi avec le regard, hein, c'est très important ça.
Oui, et puis accrocher en nous racontant des histoires aussi. Nous, on n'y connaît rien, vous voyez, c'est extraordinaire, j'ai vécu plus de 40 ans sans que savoir que j'avais un macrobiote, donc vraiment, les 40 prochaines années...
Un microbiote.
C'est pareil, tout ça n'est pas... Non, c'est vous dire que moi je suis le boéotien total, donc je suis complètement prêt à recevoir toutes vos travaux, toutes vos recherches qui me fascine, mais racontez-moi des histoires.
Eh bien, on verra ça, donc, puisqu'on sera ensemble d'ailleurs hein, sur la scène de Grenoble pour la finale et pour accueillir donc tous ces finalistes. Ce sera le 13 juin prochain. D'ailleurs, les inscriptions ne sont pas tout à fait ouvertes, ça va venir, je crois, dans quelques jours.
J'aimerais juste saluer tous les autres candidats du concours. On leur a promis de leur faire une petite dédicace.
Ils passent au micro.
Les autres candidats non sélectionnés.
Ah oui, ça voilà. Évidemment, donc, on les salue.
On pense
aussi
à vous les gars et les filles. Hein, j'espère que vous penserez aussi à nous le soir de la finale. Voilà,
le 13 juin, donc ce sera à Grenoble. Bertrand Perrier, La parole est un sport de combat. C'est un livre que vous avez publié aux éditions Jean-Claude Lattès et qui évidemment est toujours là, disponible.
Absolument, deuxième édition, toujours en vente.
Pour ceux qui évidemment doivent se présenter devant le public. Fleur Hopkins, dans un instant pour une exposition à la BNF. Fleur Hopkins qui elle aussi, on le disait tout à l'heure, a participé à MT 180.
You're gone. Under somebody new, well, that didn't take long. And where you're gonna go, not that I care. And who can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Now that you're gone, now that you're gone. And what will you do now you're all alone? Who's gonna keep you warm? Now that you're gone. Now that you're gone.
The Raconteurs, c'était Now That You're Gone.
La tête au carré, le club. sur France Inter.
Et tous les vendredis dans le club, il y a le coup de cœur de Sophie Bécherel. Sophie...
Oui, vous voyez que ma thèse en 180 secondes, ça peut conduire loin, ouais. Puisque c'est ce qui a inspiré cette exposition à la BNF à Fleur Hopkins, puisque c'est votre, elle est largement inspirée de votre sujet de thèse, de votre travail de thèse. Donc ce courant littéraire en vogue entre 1900 et 1930 a eu un chef de file, un certain Maurice Renard. Il arrive après Jules Verne. En quoi est-ce qu'il se différencie de lui ?
Alors, il prend même position dans son texte manifeste en 1909. Il dit que lui, il ne cherche pas à anticiper sur l'avenir. Il ne cherche pas non plus à enseigner la science, à enseigner des rudiments scientifiques. Et il ne veut pas non plus raconter des romans d'aventure. Lui, il veut vraiment faire réfléchir son lecteur en lui montrant un présent modifié, altéré par la modification d'une loi, par une découverte scientifique inattendue.
Il a bien voulu créer un mouvement littéraire, c'est ça ?
Absolument. Il a vraiment publié ce texte manifeste-là. Il a aspiré à en être le chef de file. Il a créé un prix à son nom aussi à la Société des gens de lettres. Donc, effectivement, il aspirait à être un leader.
Mais ça s'appelait Le Merveilleux Scientifique ?
Tout à fait, Merveilleux ouais. Scientifique, mais il va quand même, tout au long de sa carrière, changer le nom de ce mouvement, parce qu'il se rend compte que le terme est tout de même antithétique, il est problématique et il va lui donner d'autres noms comme roman d'hypothèse, conte à structure savante, roman merveilleux, virgule scientifique ou encore roman parascientifique.
Alors ce que montre l'exposition de la BNF, c'est le foisonnement en fait de la production à l'époque. Il y a 200 couvertures d'ouvrages reproduites et du texte. Qui étaient ces auteurs ? Est-ce que c'était des savants qui avaient envie de faire de la vulgarisation ? Est-ce que c'était des romanciers curieux ?
On a de tout. En vérité, vous allez retrouver certains noms que vous connaissez. Reni Aîné pour La Guerre du Feu. Il a été un précurseur du merveilleux scientifique. Vous allez avoir Maurice Leblanc, qu'on connaît plutôt pour Arsène Lupin. Il a écrit des récits où des Vénusiens nous filment à notre insu. Vous allez avoir aussi des aficionados du roman d'aventure. Je pense à Jean de La Hire, à Gustave Le Rouge, qui sont allés donc dans les terres du merveilleux scientifique. Et effectivement, on a des médecins, on a Octave Béliard, on va avoir André Couvreur, qui vont produire des textes de merveilleux scientifiques, qui vont procéder en partie de leurs recherches scientifiques et de leur lecture.
Alors l'époque est à la... Beaucoup de découvertes scientifiques émergent à cette époque. Et du coup, vous expliquez qu'une découverte, une idée de livre. Presque.
Plus ou moins, c'est ça. Et ce qui me semble très frappant, c'est que dans cette période-là, on a quantité de découvertes qui touchent aux sciences de l'invisible. Les rayons X en 1895, le radium en 1898, la TSF en 1896. Et n'oublions pas, évidemment, tout le courant métapsychique. Des savants très sérieux, comme Charles Richet, comme Camille Flammarion, le couple Curie même, se passionnent pour les pseudosciences, le spiritisme, la télépathie, et j'en passe. Donc tout ça nous fait un environnement très foisonnant pour justement inspirer ces auteurs et cet imaginaire du merveilleux
ça,
scientifique.
Les scientifiques ne s'en vanteraient pas aujourd'hui, d'apprécier
la frontière n'était peut-être pas aussi nette qu'aujourd'hui.
Oui, mais tout de même, moi je pense aujourd'hui par exemple à Yves Coppens, Pierre Pelot, qui ont écrit Le Rêve de Lucie, et qui disent « nous faisons du merveilleux scientifique ».
Oui.
Donc on a quand même certains scientifiques qui touchent à un imaginaire littéraire aujourd'hui. Mais c'était une autre période où on pouvait rêver la science, oui.
Aline Richard.
Oui, je me posais la question, quand on dit merveilleux scientifique, merveilleux c'est un terme très positif. Finalement aujourd'hui dans la science-fiction moderne, c'est plutôt dystopien en général. Est-ce que ces romans, ces textes-là sont merveilleux ou ils sont simplement de l'ordre de l'imaginaire.
Alors, merveilleux est à comprendre en plusieurs sens, parce qu'on a deux phénomènes qui se passent. À la fois, on a une modernisation du conte de fées, et Maurice Renard, notamment, disait qu'il voulait être le nouveau Perrault. On n'a plus un miroir magique, on va avoir une fenêtre qui vous permet de voir le passé. On n'a plus une cape d'invisibilité, on va avoir les rayons chez Wells qui nous rendent invisibles. Et de l'autre, on a, comme je le disais, une normalisation du merveilleux. Je pense à Charcot qui va intégrer l'hypnose à la Salpêtrière. Donc ce mot merveilleux, on peut le comprendre de manière extrêmement variée. Mais effectivement, dans le merveilleux scientifique, on n'a pas un désenchantement, on a plutôt, et pas non plus un réenchantement, c'est plutôt un entre-deux, une inquiétude et des menaces qui viennent de la science.
Parce qu'on pense évidemment aujourd'hui à toute cette branche de la science-fiction qui s'occupe du climat, Cli-Fi.
Tout à fait. Et vous trouverez dans l'exposition, les derniers panneaux sont plus pessimistes, je parle de fin du monde au pluriel, donc vous trouverez théorie de l'effondrement et disette d'éléments aussi dans le merveilleux scientifique.
Donc vous venez jusqu'à aujourd'hui ou pas ?
Non, dans le merveilleux scientifique, on a quantité de récits qui parlent de collapse solaire.
On parlait déjà d'effondrement.
Et c'est ce que montre l'exposition, c'est à quel point finalement les thèmes abordés sont très modernes, parce qu'on évoque déjà le transhumanisme, effectivement la fin du monde, les problèmes d'énergie, le voyage évidemment dans l'espace. C'est incroyable, cette correspondance, cette écho. écho au présent?
Ils sont effectivement à l'aune des préoccupations de l'époque, en sciences et en pseudosciences, mais mon souhait c'était vraiment de montrer la modernité et la contemporanéité de ces textes. Montrer qu'ils n'ont pas vieilli à la fois au niveau de la qualité littéraire, mais aussi des sujets qu'ils portent. On parle d'ectogénèse, par exemple, dans L'œuf de verre de Jean de Kyriel en 1912.
Ouais. Et Frankenstein, là, par exemple, qui échappe justement à son créateur, est-ce que ça fait partie de ce courant?
De manière inavouée, bien sûr, sauf que je n'ai jamais trouvé référence au texte. On va plutôt aller voir du côté de Poe et de Stevenson. Mais évidemment, le créateur détruit par hubris par sa créature, on en a foison.
Pourquoi ce mouvement est tombé dans l'oubli et ses auteurs avec lui?
Il y a de nombreuses explications, la principale étant évidemment le déferlement de la science-fiction américaine qui va arriver dans les années 1950 en France et qui va tout simplement effacer toute cette Atlantide littéraire.
Alors, je disais, il n'y a pas d'objet montré, mais il y a ces couvertures. Et mon Dieu, qu'on apportait un soin incroyable aux couvertures d'ouvrages. Elles sont sublimes, très très belles.
Elles sont magnifiques. On a Atamian, on a Maurice Toussaint, on a mon préféré Henri Armengol. Enfin, on a quantité d'illustrateurs qui méritent vraiment d'être découverts.
Volonté absolument. De l'éditeur ou des auteurs?
C'est difficile à dire. Moi, je n'ai pas trouvé de correspondance qui établit un vœu significatif de la part de l'auteur. Mais on voit très bien, je pense, de la part de l'éditeur, je pense à Pierre Lafitte notamment, qu'il y avait un souhait d'avoir des couvertures frappantes et résolument modernes. Quand on les voit aujourd'hui, elles pourraient être...
Qu'est-ce qu'elles montrent, par exemple?
Souvent des femmes éplorées, des créatures terrifiantes, des couleurs frappantes.
Ah oui.
Et parfois, elles sont en décalage avec le texte, mais très souvent, elles sont captivantes.
Oui, regardez quelques titres aussi. Le prisonnier de la planète Mars, l'homme truqué, qui fait référence donc à l'homme augmenté ou au transhumanisme, l'homme qui peut vivre sous l'eau, le détrousseur de cerveau. Il y a des choses exceptionnelles. Je vous dis, on a envie de se précipiter chez les libraires. Votre coup de cœur ou vos coups de cœur, parce que dans tous ces trésors, vous devez bien avoir des auteurs de prédilection ou des ouvrages que vous nous conseilleriez.
Mes favoris, c'est évidemment Maurice Renard, l'homme truqué, ça je le recommande chaleureusement. Il est...
Qu'est-ce que ça raconte?
Alors, c'est un homme qui a perdu la vue sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale et on va lui greffer de terribles électroscopes pour voir l'électricité, sauf qu'il développe, non seulement il recouvre la vue, mais il développe un sixième sens, il est capable de voir l'électricité et que des êtres invisibles nous entourent et peut-être, on n'est pas dans le microbiote, mais des êtres invisibles nous manipulent et nous menacent. Donc ce texte-là, vous pouvez le retrouver à la fois sur Gallica, mais aussi notamment chez L'Arbre Vengeur. Et puis un autre favori, ce serait peut-être L'Homme qui voit à travers les murailles de Guy de Terramont, daté de 1913, qui est un récit éminemment mélancolique, où un homme reçoit un grain de radium dans le cerveau et peut voir à travers les murs. Ça ne finit pas très bien pour lui.
Alors, il faut juste préciser qu'il y a un débat qui est prévu le 16 mai, voilà, sur le thème histoire et fortune de la science-fiction à la française. Et puis, le 5 juin, un colloque d'une journée complète où, notamment, vous aborderez, en fait, la source d'inspiration que ces auteurs ont pu constituer pour des artistes d'aujourd'hui.
Absolument. L'idée de ce colloque, c'est à la fois de montrer jeunesse, fortune et, comme vous le disiez très bien, lien possible avec la science-fiction parce qu'il y a un lien évident, même si je préfère parler plutôt de conjecture romanesque rationnelle, de littérature d'imagination scientifique. Mais ce sera la discussion très longue et très foisonnante de ce 5 juin. Et en deuxième partie de soirée, dès 17h, on a le plaisir de recevoir Serge Lehmann, qui est le scénariste de la Brigade Chéméric, Alex Alice pour Le Château des Étoiles et Amélie Sarn pour Les Aventures Fantastiques de Sacré-Cœur. Et on va discuter avec eux de l'influence, peut-être inconsciente même, de ces textes sur leur imaginaire. Tout à fait.
Formidable. Mais c'est vrai que ça donne tout de suite envie d'aller chez le libraire. Mais vous avez tout à fait raison,
vous
Sophie.
Vous pouvez passer à la librairie de la BNF, vous en trouvez quelques-uns. Et apparemment, des fans de science-fiction ont su préserver ce fonds, puisque vous me disiez qu'il y a eu quand même pas mal de rééditions, mine de rien.
Absolument. La micro-édition est très active. Bibliog, Archéo SF. On a Les Moutons électriques. On a, je vous le disais, L'Arbre Vengeur. Et surtout, la collection de la BNF, Les Orpailleurs, depuis maintenant 2017, réédite de nombreux textes.
Ouais. Et c'est jusqu'en août à l'exposition à la BNF, François Bitteron, exactement, pour aller en savoir un peu plus sur le merveilleux scientifique. Votre sujet de thèse, c'était quoi exactement, Fleur
Hopkins? Alors moi, il doit faire trois lignes, justement.
Alors
je vous le dis, c'est aux frontières de l'invisible, culture visuelle et instruments optiques, dans le récit merveilleux scientifique au passage du siècle, entre parenthèses, 1894-1930.
Bravo, magnifique. Allez, vous restez avec nous dans un instant, on va parler virus et moustiques.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant. cette planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Ma parole, y'a qu'elle sur terre. Y'a qu'elle pour faire tant de mystère. Mais pour nous, y'a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, on s'aimerait quand même. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant. Ensemble, nous deux, quelle vie on a tous les deux, quand on s'aime comme nous deux.
Déjà moi, Étienne Dao.
Le club sur France Inter.
Voilà, suite et fin de ce club pour parler d'un sujet plutôt préoccupant d'ailleurs, Aline Richard, les virus et les moustiques en France.
Absolument. Ouais. Et on arrive, c'est la belle saison, comme on dit, même s'il fait un petit peu froid encore peut-être, hein, mais au-dessus de 20 degrés, les moustiques apparaissent. Et nous persécute, nous pauvres humains.
Ouais, voilà. Et vous avez confié un article à Cécile Beck qui est avec nous, hein.
Absolument, parce que ça peut, vous vous faites piquer par un moustique. Bon, c'est pas non plus un drame international, mais vous pouvez quand même. Il arrive que l'on tombe malade.
Dans notre pays, c'est pas
dans
un drame international.
Pays, parce que oui, c'est non seulement. Oui.
C'est la première cause de mortalité au monde, hein, le moustique. Hein.
Tout à fait, tout ouais. à fait. Mais pas n'importe quel moustique. Il y a plus de 300, si je me rappelle bien, il y a plus de 300 espèces de moustiques. Il y en a une poignée, si j'ose dire, qui transportent des pathogènes. Et c'est de ça dont Cécile Beck nous parle dans son article, de ce moustique commun que on connaît tous, qui s'appelle Culex, qu'on surnomme parfois cousin, qui peut transporter deux pathogènes, le West Nile virus, le virus du Nil occidental, et un autre, Cécile.
Qui s'appelle?
Donc ça s'écrit Usutu, voilà, U-S-U-T-U, mais ça se prononce Usutu.
Usutu, exactement. Alors vous êtes vétérinaire et virologiste à l'ANSES, hein, c'est l'Agence de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Et votre article dans The Conversation France, qu'on peut donc lire en ce moment même sur le site de The Conversation, part en fait de cadavres d'oiseaux morts repérés à différents endroits de notre territoire.
Voilà, donc ça, c'est arrivé pendant l'été 2018. Donc là, ça concerne le virus donc Usutu. C'est-à-dire que des particuliers ont vu fin juillet des cadavres, surtout de merles, qui donc parce que souvent les merles sont proches des habitations et se déplacent à plusieurs. Et il y a eu aussi des alertes à partir des parcs zoologiques qui, eux, ont vu leurs chouettes mourir brutalement. Et donc, face à toute cette mortalité, donc dans
inhabituelle,
la vie, très inhabituelle. Donc il y a un réseau qui s'appelle le réseau SAGIR qui permet en fait de faire la collecte de ces cadavres, de les envoyer donc aux labos départementaux qui ont fait des autopsies, des analyses. On ne savait pas trop de quoi étaient morts ces oiseaux et donc ils nous ont envoyé les encéphales, les foies, les rates. Et donc nous on a pu dire que c'était donc dû à ce virus, le virus Ouzoutou, qui est un virus très particulier parce qu'il est vectorisé, c'est-à-dire qu'il est transmis par un moustique et que le réservoir est aussi l'oiseau en fait. Donc en gros il y a l'oiseau, le moustique et le vecteur qui transmet le virus.
Donc dans l'article vous parlez de deux virus, donc celui-ci qui touche plus
les oiseaux.
Plus les oiseaux, voilà, et l'autre qui touche les humains.
Voilà, donc le deuxième virus auquel on s'intéresse, c'est le virus qu'on dit fièvre du Nil occidental. Il a plusieurs noms en fait. Il a un nom anglophone, virus West Nile, mais aussi virus du Nil occidental, c'est le même virus. C'est aussi un virus qui est vectorisé, donc transmis obligatoirement par les moustiques, ça il faut vraiment bien le comprendre. Oui. Le réservoir c'est aussi les oiseaux, mais là par contre la sensibilité des hommes et des chevaux, c'est aussi pour ça qu'on s'y intéresse, parce que moi je suis vétérinaire, donc c'est côté...
Et spécialiste des chevaux aussi.
Voilà, c'est plutôt côté chevaux. Dans certains cas, quand vous êtes piqué donc par un moustique qui porte ce virus, vous pouvez être malade. Ouais. Et en 2018, autant chez les chevaux, mais surtout chez les humains, il y a eu des foyers... en particulier dans les Alpes-Maritimes, il y a eu 27 cas dus donc à ce virus, avec des cas de temps en temps graves, de forme nerveuse, où là, à ce moment-là, c'est bien grave, vous devez aller à l'hôpital.
Ouais. Alors moi, j'ai un souvenir de la Camargue, en particulier d'avoir fait du cheval, justement, une fois en Camargue, et d'être sorti, mais avec des piqûres de moustiques, mais c'est des trucs de dingue, quoi. Hein. Vous êtes couvert de pustules, mais c'est incroyable. Est-ce que c'est ce moustique qui est le responsable ou pas?
Alors oui, justement, vous avez tout à fait raison. En Camargue, là, on était surpris cette année, parce que justement, c'était dans les Alpes maritime, donc c'était bien la première fois qu'on le trouvait là, et on pense que ça vient de l'Italie, enfin on en est même sûr, par les oiseaux migrateurs italiens, mais en Camargue, effectivement, c'est là où depuis longtemps, depuis les années 2000, il y a déjà eu quelques cas de virus.
Qu'est-ce qu'ils bouffent ces moustiques pour être aussi agressifs et...
Mais oui, enfin, disons qu'ils ils peuvent se nourrissent sur vous pour après ça pondre, c'est les femelles moustiques qui, mais de temps en temps, donc ils peuvent transmettre ce virus.
Aline.
Oui, les moustiques, on connaît beaucoup, on a beaucoup entendu ces dernières années parler du moustique tigre,
qui est une
sale bête,
hein,
et qui a surgi à Paris l'année dernière également. Le tigre qui transmet des maladies pas très marrantes comme la dengue ou le chikungunya. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé dans l'article de Cécile, c'est qu'on parle de ce culex qui est vraiment très commun. Moi, j'en ai chez moi sur mon balcon à Paris. Et le fait que le culex puisse effectivement transmettre des pathogènes est pas anodin, je pense, aujourd'hui, dans ces époques où il y a quand même de l'émergence, de la réémergence de maladies. Bon, on parle évidemment du changement climatique, mais pas que. Il y a aussi l'anthropisation, enfin le fait qu'il y ait de plus en plus d'habitats. Donc tout ça, c'est intéressant.
Alors justement, il y a une question d'un auditeur, Jean-Paul, qui demande, les moustiques plutôt tropicaux remontent vers le nord à cause du dérèglement climatique. Quels sont les dangers réels pour la transmission de maladies sur l'homme?
Alors justement, si on parle de moustiques, il y a donc côté Aedes, où là c'est vraiment ce qu'on appelle des moustiques mammophiles, c'est-à-dire qu'ils piquent plutôt des mammifères, dont l'homme. Et donc là, ce sera donc transmission de la dengue. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'homme, lui, multiplie le virus et a une quantité de virus dans le sang suffisante pour la dengue, pour le transmettre directement. Donc quelqu'un qui est malade de dengue, s'il se fait piquer par un moustique donc du genre Aedes, pourra transmettre la maladie donc à quelqu'un d'autre. Donc si il y a de plus en plus d'Aedes, et si en plus les gens reviennent des pays tropicaux avec le virus de la dengue donc dans le sang, là il y a un réel risque qu'il y ait de plus en plus de cas qu'on dit autochtones, c'est-à-dire directement sur le sol français, de cas de dengue. Le virus West Nile, c'est un peu différent donc du Nil occidental, c'est que vraiment il faut obligatoirement qu'il y ait des oiseaux. C'est les oiseaux qui multiplient le virus, et que les moustiques piquent d'abord les oiseaux, s'infectent, et ensuite piquent l'homme, c'est-à-dire ou le cheval. Et le cheval ou l'homme font parfois des encéphalites, mais eux-mêmes ne peuvent pas retransmettre le virus.
Mais il y a beaucoup de cas d'encéphalite ou pas ?
Alors là, justement, jusqu'à l'année 2018, côté humain, il n'y avait jamais eu de cas d'encéphalite. Et là, pour la première fois en 2018, il y a eu 7 cas quand même d'encéphalite.
Donc c'est à surveiller. C'est aussi un peu l'objet de cet article. Hein. C'est ça, pour dire que là, aujourd'hui, on est quand même dans un moment où il y a une surveillance particulière concernant ces moustiques-là que vous décrivez. Hein.
C'est ça. Et surtout qu'on est d'autant plus, un peu inquiet, dans le sens que même si le cycle est quand même compliqué, vu qu'il y a des oiseaux, il faut quand même voir que, comme l'Italie aussi a beaucoup de cas dus au Nil occidental, il peut y avoir une transmission via les oiseaux migrateurs d'Italie vers la France.
Sophie, pour la dernière question.
Cette surveillance peut-elle nous amener à être plus prêts, à mieux nous préparer ou à mieux combattre éventuellement les effets du moustique?
Déjà, de savoir si dans un département, vous avez des cas, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a été infecté avec le virus du Nil occidental, vous savez donc le cycle au niveau oiseau moustique est parfaitement là. Mmh. Et donc là, il faut vraiment vous protéger, le plus possible. C'est comme dans les pays tropicaux, quand vous avez
évité de se faire piquer.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Bon, c'est pas très rassurant quand même tout ça, non?
Moyennement rassurant.
Non, mais il faut faire attention. En tout cas, il y a un état de vigilance.
Par contre, c'est sur le sud de la France pour l'instant. Heureusement, autant le virus Ouzoutou, qui a un cycle identique à peu près sur la France entière, autant le virus West Nile, qui est dangereux pour l'homme, celui-là, pas le virus Ouzoutou, ou de manière anecdotique, lui est sur, sur le bord méditerranéen.
Ouais. Bon, c'est à lire sur The Conversation France.
Absolument.
Aline Richard, pour en savoir plus donc sur ces sales bestioles. Est-ce que justement, nous avons dans la littérature du merveilleux scientifique Fleur Hopkins des ouvrages qui pourraient rejoindre cette thématique et nous faire encore plus peur?
On a quantité de guerres microbiennes, un titre comme L'offensive des microbes, et puis on a des mouches inoffensives qui vont anéantir le genre humain dans La guerre des mouches en 37 de Jacques Spitz.
Ah, c'est bien ça, La guerre des mouches. Ah, j'aime beaucoup. Bon, écoutez, on va inscrire tout ça. Et puis mettre les références évidemment sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne chance donc à nos deux lauréates pour MT180 finale grenobloise le 13 juin prochain. Bertrand Perrier sera évidemment sur scène pour commenter cette finale. Et puis d'ici là, on accueillera vos autres camarades ici au micro de la Tête au Carré. Dans un instant, ce sera Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel, une fiction autour des écoles marseillaises. Attention, travaux, c'est son titre. Et puis on parlera des eaux lundi, Z2O. Les eaux et les animaux pour en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement justement de ces lieux.